France Inter.
Oui, bonjour, la Terre au carré, c'est David dans le Sud-Ouest. Si jamais vous ne savez pas à quoi ressemblent les traitements au glyphosate, il suffit de repérer toutes les zones qui normalement devraient être vertes d'herbe, de végétation, et bien en fait elles sont légèrement orangées, rougeâtres. Alors c'est le cas aujourd'hui de tous les villages que je traverse en grande partie. Et cette année, je crois que c'est vraiment la fête, parce qu'ils se sont lâchés comme jamais. Alors là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun moratoire sur quoi que ce soit, que tout va bien et qu'on en balance absolument partout. Voilà, salut.
Bonjour, c'est Anne de Trébeurden. Ça a failli être une belle histoire, cette histoire de l'allée qui a fait 9 km pour mettre bas à l'île de Groix. Oh, génial, elle a échappé à la chasse, elle a échappé aux hommes. Pourquoi est-elle allée sur l'île de Groix? Il n'y a pas de sanglier sur l'île de Groix, on va peut-être s'en occuper. On va l'anesthésier et la mettre ailleurs si on n'en veut pas, mais non, non, non. Les chasseurs ont décidé autrement. Ils l'ont tué et les petits marcassins. Voilà, on est tous très très tristes, donc j'avais envie de vous le faire partager. Au revoir, merci.
Jean-Claude Decourt à Pézenas. Bonjour amis de la Terre au carré. La lutte contre un projet d'artificialisation en créant un super lotissement sur des terres agricoles à Pézenas, dans le quartier de Saint-Christol, continue. Un deuxième film avec des propositions aura lieu et sera projeté gratuitement à la Maison du Peuple le mardi 2 avril à 18h30. Au revoir la Terre au carré. Non, la Terre au carré. À bientôt.
Bonjour, la Terre au carré, c'est Pierre-Yves, près de Saint-Chély-d'Apcher, en Lozère. J'ai entendu la semaine dernière que les nappes étaient encore en déficit en Lozère. Bon, je vis à 1100 mètres d'altitude. J'ai fait le cumul des pluies depuis octobre-novembre et la neige qu'on a eue. Les sols sont saturés, les ruisseaux et les torrents débordent. J'aimerais bien savoir d'où sort cette information, parce que ici, je pense que on a eu notre comptant de quantité d'eau. Voilà, merci et bonne émission. Au revoir.
Bonjour la Terre au carré, c'est Sarah, je vous appelle de Limoges pour vous présenter le festival Horizon Vert, qui est un festival de cinéma qui se déroulera du 3 au 9 avril prochain. C'est un festival de cinéma sur l'écologie et l'environnement qui se déroulera dans 4 cinémas. L'idée à travers ce festival et les projections des films, c'est de sensibiliser les publics autour de l'écologie, de discuter de possibles actions à mener ou qui sont déjà menées pour protéger la nature et l'environnement, et enfin de mieux comprendre la nature, les ressources naturelles, la consommation, les énergies, la pollution. Et pour citer un film qui passe dans notre programmation qui s'appelle La Rivière, plus on comprend ce qu'on protège, plus on a envie de le protéger. Merci la Terre au carré.
Et le 01 56 40 45 45, le répondeur attend vos messages, même en ce lundi de Pâques. Profitez-en donc pour nous appeler. C'est un fleuve dont on parle beaucoup en ce moment, en se demandant si les sportifs pourront y nager lors des prochains JO, mais fut une époque où la Seine était un cours d'eau sauvage, encore épargné par les pollutions en tout genre. Sa domestication progressive nous a fait oublier sa vitalité, son dynamisme avec des crues imprévisibles qui ont façonné les paysages. Depuis la préhistoire, la Seine en effet a été investie par les activités humaines et de nombreux objets mis au jour par les archéologues témoignent de ces différentes périodes de l'histoire. Une exposition à voir en ce moment dans la crypte archéologique de l'île de la Cité à Paris propose de le découvrir pour comprendre entre autres les interactions entre les humains et le fleuve au fil du temps. C'est l'objet de cette Terre au carré de lundi de Pâques avec nos invités Sylvie Robin, Sophie Clément et Jean-François Goret. Bonjour à tous les trois. Et bienvenue, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Ils vont se réveiller. Sylvie Robin, vous êtes conservatrice en chef des collections de la crypte archéologique de l'île de la Cité. Vous êtes aussi commissaire de cette exposition. Sophie Clément, vous êtes archéologue à l'INRAP. Vos recherches, on va le voir, concernent en particulier des sites du Paléolithique dans le bassin parisien. Et puis Jean-François Goret, vous êtes archéologue responsable d'opérations et chargé des collections au sein du département d'histoire, de l'architecture et d'archéologie de la ville de Paris. On va donc découvrir la Seine à l'époque où les Néandertaliens et les mammouths vivaient aux abords de Paris, où les maisons étaient construites directement sur le fleuve. Et puis vous allez nous raconter donc les découvertes fortuites qui témoignent des activités de la Seine à différentes époques. Vous répondrez aux messages qui arrivent sur la page de la Terre au carré et sur nos réseaux sociaux. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Et je vous parle orque. Alors, pas de celle du Marineland, les pauvres, ou le mâle inou qui est mort la semaine dernière, ça fait le tour des infos, mais d'orque sauvage coincé dans un fjord au Canada.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, dossier préparé par Anna Massardi avec Benjamin Ouagou à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Défense de mammouth, nasses de pêche, figurines en plomb, ces objets repêchés dans la Seine au fil des années témoignent de l'histoire du fleuve, mais aussi de ses populations successives, de leur mode de vie et de leurs croyances. Jusqu'au XIXe siècle, les berges de la Seine sont un lieu de travail. Peu à peu, ce lieu de labeur se transforme en lieu de promenade. Si les Parisiens continuent de jeter dans la Seine des objets toujours plus encombrants et polluants, le fleuve reste une clé de voûte du paysage français.
France TV Arts, c'était le 25 février dernier. Les objets trouvés dans la Seine de la préhistoire, donc à nos jours, exposition à voir en ce moment. Si vous passez par Paris, c'est dans la crypte archéologique de l'île de la Cité. Ça se trouve sur le parvis de Notre-Dame. Sylvie Robin, qu'est-ce que vous avez voulu nous raconter avec cette exposition sur la Seine ?
Eh bien, le thème de cette exposition m'est venu au travers de plusieurs découvertes qui datent d'il y a une dizaine d'années. Et puis ça m'a un peu trotté dans la tête s'il s'agissait de la découverte d'un mascaron qui a été sorti de l'eau par les plongeurs de la brigade fluviale.
Qu'est-ce que c'est un mascaron ?
Alors un mascaron, c'est un décor architectural qui est mis sur un pont. Et ce décor-là est particulier parce qu'il représente une figure antique, une divinité qui protège.
Donc c'est une tête impressionnante.
Voilà, c'est une tête grotesque qui fait un peu peur. C'est une divinité de l'Antiquité, qui est une divinité des champs, des bois, et elle est là pour... elle représente la nature sauvage. Et justement, mettre des mascarons grotesques sur le pont, c'est pour protéger le pont de ce fleuve sauvage dont la nature est imprévisible.
Et ça a été découvert d'ailleurs assez récemment, je crois que c'est 2014, c'est ça
C'est 2014,
cette découverte par la brigade fluviale. Voilà. Et donc, ces objets mis au jour, remontés en tout cas de la Seine, ça vous a inspiré donc cette exposition pour nous raconter au fond les liens précisément entre les humains et le fleuve.
Voilà, il y avait aussi une nasse de pêche qui racontait une autre histoire, celle de relations très étroites entre des populations riveraines de la Seine et leur exploitation du fleuve, puisqu'il y a cette double utilisation du fleuve qui est en même temps un peu mystique et en même temps vraiment de l'exploitation de son énergie. Et puis la découverte la plus récente, c'est celle de Sophie Clément de l'INRAP sur le site de Clichy-la-Garenne, qui nous a remis un petit peu dans cette histoire de la Seine et de ses populations.
Ouais, grande histoire, hein, puisqu'on part vraiment de la préhistoire. Sophie Clément, on va en parler avec vous, avec ses découvertes. Et puis on passe par l'Antiquité, le Moyen-Âge et puis aujourd'hui, puisqu'il y a encore des découvertes qui sont réalisées. Ce qui est assez étonnant dans cette exposition, Jean-François Goret, c'est de voir à quel point la Seine que nous connaissons aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le fleuve sauvage qu'elle a été. C'est-à-dire qu'on a oublié, au fond, toute cette dynamique de cet élément naturel avec sa domestication depuis.
Oui, tout à fait, parce que même si aujourd'hui on se réapproprie un petit peu la Seine, les berges de la Seine, c'est redevenu un espace de sociabilité, on se promène, on profite quand il fait beau pour s'asseoir au bord de l'eau. Pendant très longtemps, il y a une rupture entre la ville, ses habitants, et la Seine qui était finalement juste une espèce d'obstacle qu'on franchissait et qui devenait finalement un terrain plutôt réservé à des bateaux pour touristes qui admiraient les monuments de part et d'autre des rives. Alors que depuis l'Antiquité, de manière très dense, parce qu'il s'est passé des choses bien sûr à la préhistoire, mais c'est des occupations plus ponctuelles sur les berges de la Seine, depuis l'Antiquité, la Seine est vraiment au cœur de la cité, et comprendre la Seine, c'est comprendre la ville, comprendre comment s'organise la ville, et comprendre les relations qu'il y a entre les habitants au sein de la ville. Donc la Seine est vraiment un élément essentiel à partir du moment où on essaye de se représenter ce qu'était cette ville à travers les époques depuis l'Antiquité.
Sylvie Robin, il y avait une variabilité au fond de la Seine, qu'on a pu voir d'ailleurs, ou qu'on peut voir encore aujourd'hui sur la Loire, par exemple, et qui a disparu, en tout cas, dans le bassin parisien, tellement, justement, le fleuve est maîtrisé aujourd'hui.
Alors, au moment de... En fait, la première étape de la domestication du fleuve, elle intervient à l'époque antique, puisque les Romains, après la colonisation de la Gaule, vont s'installer et vont avoir le désir de maîtriser le fleuve pour le traverser et pour en faire un port, pour développer le commerce, puisque ce sont des grands commerçants, des grands ingénieurs. Et en fait, on peut considérer qu'au moment de la romanisation, le fleuve, la Seine, ressemble plus à la scène préhistorique qu'à la scène médiévale. Et cette première construction va être déterminante puisqu'elle va passer par la construction d'une route et la construction de ponts. Et on peut dire que c'est ce premier pont qui va amener le Paris à devenir un grand axe commercial entre le fleuve et la voie terrestre.
Sophie Clément, alors elle ressemble à quoi cette scène préhistorique? Alors si on imagine des Néandertaliens par exemple au bord de la Seine, elle était beaucoup plus large à l'époque qu'aujourd'hui par exemple?
Alors sa largeur, c'est un petit peu compliqué de l'estimer avec les données qu'on a aujourd'hui. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ses berges sont absolument complètement sauvages bien sûr, et surtout en fait elle n'a pas du tout la même forme. C'est-à-dire que c'est un fleuve avec des chenaux et avec des bancs de sable qui effectivement pourraient faire penser à la Loire
aujourd'hui. Oui, c'est ça.
Et donc c'est un fleuve qui va pouvoir, si ce n'est être traversé, en tout cas, on va pouvoir y accéder à pied et donc accéder à ses ressources, donc à l'eau, aux animaux, éventuellement aux poissons qu'il y a dedans, même si on n'a pas forcément de données là-dessus non plus, en tout cas sur l'île de France. Et donc elle est très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui.
Alors juste du point de vue de la datation, on parle de populations préhistoriques qui vivaient au bord de la Seine, à quelle époque alors? Parce que c'est assez large aussi hein, comme échelle du temps.
Alors, si on parle juste du site que j'ai fouillé, on parle d'une population de Néandertal qui circule sur ces berges entre moins 56 000 ans et moins 45 000 ans. Voilà. Mais sur le site de Clichy, on a aussi trouvé donc un reste de défense de mammouth qui, lui, est plus récent, qui date de moins 26 000 ans. Donc là, on est avec des Homo sapiens et on est dans autre chose.
Voilà, donc il y avait du mammouth au bord de la Seine aussi. Hein.
Donc il y avait des mammouths.
C'est quand même un tout autre environnement et c'est ça qui est aussi fascinant à découvrir avec cette exposition, qui d'ailleurs a été rendue possible. En tout cas, l'archéologie qui a permis en tout cas les objets, c'est cette archéologie environnementale, Sylvie Robin, qui est une discipline assez récente finalement.
Alors l'étude des environnements du fleuve, elle se fait à chaque fois qu'il y a une fouille et qui permet de faire des prélèvements. Ces prélèvements sont analysés, il y a des pollens, il y a des restes de faune, d'animaux donc. Ouais. Et au fur et à mesure...
Il y a les cernes des arbres aussi.
Voilà,
hein.
il y a les arbres qui peuvent être datés par dendrochronologie quand ils sont bien conservés. Ouais. Et tous ces éléments organiques participent d'une recherche globale pour reconstituer un environnement, ces végétaux et sa faune.
Jean-François Goret, donc ça c'est plutôt assez récent, au cœur de la crise climatique et de celle de la biodiversité.
Oui, c'est assez récent dans le sens où maintenant c'est des approches systématiques en lien avec le développement de l'archéologie professionnelle ces 30-40 dernières années. Maintenant le cas de Paris est assez spécifique puisque dès le 19e siècle, notamment à travers les travaux d'un très grand archéologue qui s'appelle Théodore Vaquet et qui a fait des observations dans tout Paris en étant chargé finalement du suivi archéologique des travaux haussmanniens. Quand on regarde ces écrits, ces notes que l'on conserve encore aujourd'hui, on voit que finalement cette sensibilité, cette compréhension d'analyse d'un territoire, d'un espace et d'une rivière pour comprendre comment la ville s'était structurée est au centre de ses préoccupations. Donc il était très très novateur sur ce sujet et c'est ce qui fait aussi que à la fin de sa vie, à la fin du 19e siècle, il produit les premiers plans d'évolution de la ville de Paris et la première représentation de Paris, notamment à l'époque antique. Il a tout bon. Il a pratiquement tout bon. Aujourd'hui, on a un peu amélioré les choses, mais il avait tout compris. Et il avait tout compris aussi au niveau de l'interaction qu'il y avait entre la ville antique et le fleuve. Et ça, c'est une démarche très novatrice. Donc, c'est un cas un peu particulier Paris, puisque dès le 19e siècle, on a à l'esprit cette notion qu'il faut comprendre la rivière pour comprendre la ville.
Allez, on revient vers vous dans un instant. On évoque donc d'abord la préhistoire, ensuite l'Antiquité, le Moyen-Âge et aujourd'hui autour de la Seine avec ces objets trouvés qui font l'objet de cette exposition en ce moment dans cette crypte archéologique de Paris. Just Another Rainbow, c'était Liam Gallagher à l'instant sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Nous sommes à Paris, dans le 15e arrondissement. Et c'est ici qu'une équipe de l'INRAP a découvert, au cœur d'une zone urbaine dense, un site préhistorique. Il s'agit d'une ou plusieurs haltes de chasseurs-cueilleurs de l'époque mésolithique.
C'est intéressant donc de fouiller du mésolithique dans ce contexte puisque c'est un peu la première fois qu'on fouille cette période en bord de Seine à Paris.
L'étude des silex trouvés à proximité permettra de dire si ce foyer était utilisé pour l'activité de montage de flèches. Comme le laissaient présager d'anciennes fouilles dans le secteur, il est aujourd'hui permis de penser qu'un ancien chenal passait sous la rue Farman à l'époque mésolithique.
Vidéo de l'INRAP en 2015 avec l'archéologue Bénédicte Soufi, votre collègue Sophie Clément. Le mésolithique, juste pour resituer, c'est une période...
C'est la fin de la toute fin de la préhistoire qu'on peut s'imaginer. C'est-à-dire, c'est entre le paléolithique et le néolithique. Ouais. Et donc, c'est une période de réchauffement climatique. Ouais. Et donc on change complètement d'organisation de chasse notamment, et on invente l'arc et la flèche.
Ouais. Et alors qu'est-ce qu'il est devenu ce site, par exemple, quand on découvre comme ça, quand on met au jour des découvertes comme ça en 2015 dans une rue parisienne, qu'est-ce qu'ensuite on en fait alors finalement ?
Ah bah il a été très très étudié, il est exposé au musée Carnavalet aussi entre autres.
C'est le début du parcours archéologique du musée Carnavalet.
Voilà, et puis il sert aussi de référence en fait pour tous mes collègues qui travaillent sur le mésolithique parce que ça reste des sites qui sont exceptionnels et qui sont très bien conservés, donc on peut exploiter très très bien les données aussi.
La conservatrice Sylvie Robin donc et les archéologues Sophie Clément et Jean-François Goret sont nos invités pour parler de ces objets trouvés dans la Seine, à voir donc en ce moment dans la crypte archéologique. Et d'ailleurs, il y a tout de suite une question, Camille, au sujet de la Seine.
Oui, Thérèse nous écrit au témoin d'un doute, est-ce que c'est la Seine ou Lyon qui coule à Paris? Qui peut répondre, Jean-François Goret?
Il y a un débat sur la question.
Il y a un débat sur la question qui n'est absolument pas tranché.
Tout le monde se dit c'est Paris, c'est la Seine. Eh bien,
oui,
pas
mais
forcément.
Vous savez, la plupart des grands fleuves de France, on s'interroge finalement sur quelle est l'origine, la source qui a prédominé à la constitution de ces fleuves. Donc bon, c'est pas un débat qui nous anime, nous, archéologues, historiens, parce que c'est la Seine qui passe à Paris. Et on a toujours parlé de la Seine, dans les textes on parle de la Seine, donc c'est la Seine. Qu'on change le nom du fleuve ne change pas grand-chose à nos questionnements. Mais je pense, à ma connaissance, parce que je suis pas un spécialiste de la question, que le débat n'est absolument pas tranché.
Oui, c'est ça quand même, Sophie Clément. C'est que...
En fait, je pense que c'est une question d'échelle d'interprétation. C'est-à-dire, soit on est dans l'histoire, effectivement les écrits et la Seine passe à Paris, et puis quand on commence à être dans le temps géologique et l'hydrologie, on passe dans une autre analyse.
Bon, petit débat en tout cas, mais c'est vrai qu'on nous a posé la question et que c'est assez surprenant pour ceux qui ne sont pas au courant qu'il y a un débat justement autour de ça, mais pour l'instant la Seine à Paris s'appelle la Seine.
Ce qui compte, c'est que dès l'époque romaine, la Seine identifiée avec une déesse qui s'appelle Sequana et qui est localisée aux sources qu'on dit aujourd'hui de la Seine, et donc on peut dire qu'à partir de l'époque romaine, le débat serait
clos. C'est la déesse de quoi, Sequana, d'ailleurs ?
C'est la déesse des sources de la Seine.
Et elle est représentée dans l'exposition, justement, avec un masque.
Alors, il y a une très belle statuette qui est conservée au musée archéologique de Dijon et dont nous avons présenté la photo.
Alors, scène très parisienne d'ailleurs, parce que c'est aussi volontaire dans l'exposition d'axer vraiment sur le bassin parisien et Paris en particulier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on trouve moins de choses ailleurs, parce qu'elle fait quand même 700 km la Seine, donc on aurait pu imaginer que des découvertes soient aussi présentées dans d'autres régions, c'est pas le cas ?
Alors, il y a beaucoup de découvertes, notamment par exemple les armes qui ont été trouvées en très grande quantité dans la Seine, mais dans tous ces segments. Mmh. Jean-François en parlera tout à l'heure. Nous avons voulu centrer quand même cette exposition sur Paris, en sortant de Paris uniquement quand nous avions besoin d'illustrer des actions, des sites qu'on ne pourrait pas trouver à Paris en raison des plus grandes démolitions de niveaux archéologiques qui ont eu lieu dans la capitale.
Sophie Clément, on repart vers la préhistoire avec vous, parce que Clichy-la-Garenne, c'est un site justement important où vous avez travaillé. Comment s'est passée la découverte justement de ce site préhistorique ? C'est vraiment le plus grand des hasards ou il y avait quand même des petits éléments ?
Alors non, c'était pas un hasard. D'abord, on avait beaucoup d'éléments qui nous venaient directement du 19e siècle et de ces grands travaux haussmanniens. Et donc, il y avait d'abord un archéologue amateur qui s'appelle Jules Rebou, hein, qui s'appelait Jules Rebou et qui a beaucoup travaillé au 19e siècle, qui a récolté énormément d'outils.
Parce qu'en fait, pour construire le Paris haussmannien, on allait dans les carrières de la région parisienne et c'est là justement qu'on a mis au jour, au fond, ces vestiges préhistoriques, par
voilà.
exemple. Hein.
Il y avait les carrières, les sablières, et puis il y avait aussi le fait que Clichy était le point de sortie des eaux de Paris. Voilà. Donc tout cela faisait qu'il y avait beaucoup de travaux et d'ouverture de carrière sur cette ville, Clichy et le Valois.
Donc il y avait de quoi investiguer en fait.
Voilà, il y avait quantité de faune paléolithique et d'objets taillés, en silex taillé. Ouais.
Qu'est-ce que vous avez découvert de plus remarquable? Alors s'il fallait faire un résumé en tout cas des pièces majeures de Clichy-la-Garenne donc.
Alors à Clichy, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur donc une ancienne terrasse alluviale qui est très bien conservée. Donc on a plein d'informations, différents niveaux. D'abord, on a des informations géologiques et géomorphologiques, ce qui veut dire qu'on va étudier les différentes couches qui ont été déposées par le fleuve. Et on va essayer de comprendre son dynamisme. Donc déjà, on a beaucoup d'informations là-dessus. Et puis, on a aussi trouvé donc des niveaux avec de la faune préhistorique, donc des chevaux et des bisons, qui portent des traces de boucherie, de découpe. Donc on sait qu'ils ont été débités et certainement consommés par donc ces hommes de Néandertal. Et puis on a des outils en silex taillés, très bien conservés, dont on a pu aussi étudier les tranchants. Et on sait à quoi ils ont servi, ce qui est assez rare pour ces périodes-là.
Donc ça, c'est très précieux aussi, parce que ça permet de comprendre les activités humaines. Hein, et véritablement, donc cette industrie presque du silex à l'époque
C'est une industrie, c'est une technologie, hein, comme nous, on a la nôtre. Et puis la matière première principale, c'est le minéral. Et ça permet de comprendre aussi un peu comment ces groupes-là occupent le territoire. Parce que parfois, on a des sites qui sont spécialisés dans la boucherie ou des sites qui sont spécialisés dans les tailles des outils. Et là, on a vraiment des preuves d'occupation un petit peu très courte de ces berges. Parce qu'en fait, on ne vit pas sur la berge à la préhistoire.
À cause du dynamisme du fleuve, justement,
oui,
a priori.
Voilà. On y passe, en fait. C'est un lieu de transition. Ce n'est pas du tout un lieu d'habitation. Et donc c'est aussi précieux de voir comment Néandertal va occuper les différentes parties de son environnement et va en tirer profit, d'ailleurs.
Et donc, avec ces silex, il y a des méthodes de débitage qui sont connues à l'échelle internationale. Et alors, pareil, moi, je l'ai appris finalement en préparant ce dossier, c'est que la méthode Levallois, hein, qui est une méthode de taille de silex, c'est en lien avec Levallois-Perret, c'est ça ?
Oui. Justement, ça a été découvert. En fait, cette méthode Levallois, elle a pour conséquence de donner une forme très particulière à la matrice qui va servir à débiter les éclats, qu'on appelle nucléus. Et donc, du coup, ça a été remarqué dès le 19e siècle et ça a été identifié comme la méthode Levallois et c'est comme ça qu'on l'appelle à travers le monde.
Ouais. Des vestiges, des fragments de défense de mammouth aussi ? Hein, ça, c'est ce que vous avez découvert à Clichy.
Oui, alors c'est vraiment des fragments. Hein. Ouais. C'est un petit tas de miettes. Ouais. C'est pas les belles défenses qu'on voit dans l'exposition. Hein.
Mais c'est pour justement donner à voir aussi aux spectateurs, hein, parce que c'est compliqué d'avoir juste des fragments de défense. On est un peu déçus. Donc là,
oui, il fallait traduire le fragment en un élément plus conséquent pour qu'on puisse imaginer la bête derrière.
Sophie Clément, pourquoi on parle de néandertaliens et pas d'homo sapiens alors ? Les homo sapiens n'ont pas été intéressés par la Seine ?
Non, c'est pas du tout ça. C'est que, en fait, à cette période-là, entre moins 56 000 et moins 45 000, il n'y a que des représentants du genre néandertal qui vadrouille dans l'Europe, quoi.
Ouais.
Donc, on est à peu près sûr, bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'une découverte, mais on est à peu près sûr qu'il n'y a que eux comme représentants du genre humain sur ces berges.
Donc, il n'y a pas eu rencontre entre Homo sapiens et néandertaliens à cet endroit et à cette époque-là.
Voilà.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre cette découverte des objets trouvés de la Seine. On passera à l'Antiquité et au Moyen-Âge dans un instant.
France Inter.
La Terre au carré.
14h31, on passe au vert, Camille Cronier.
Et direction l'ouest du Canada, sur l'île de Vancouver, où se joue un peu une course contre la montre depuis une grosse semaine. Tout a commencé le 23 mars dernier, donc pas samedi là, mais celui d'avant, quand des gens ont aperçu à travers les arbres de la forêt une orque coincée dans le lagon juste derrière, coincée sur un tas de petits rochers, une sorte de banc de cailloux, et cela alors que la marée descendait très vite. Donc les locaux, un peuple autochtone, les EATSAT, aidés par des associations qui ont rappliqué illico, ont essayé de la pousser vers l'eau, d'autant qu'elle était échouée sur le flanc, donc fallait quasiment la faire rouler sur le côté. Elle bougeait sa queue comme pour nous aider, raconte cette habitante, mais elle était très très lourde.
Oh, poor girl. That's so sad.
L'orque est malheureusement morte 2 heures après, laissant à quelques mètres d'elle, où il y a un petit peu plus de fond, son petit, parce qu'elle n'était pas seule. Une petite orque de 2 ans, un mâle, baptisé Kuisaiis, ça veut dire courageux petit chasseur dans la langue locale. Il se retrouve à faire des ronds dans l'eau et appeler sa maman. Alors là, ce sont de vrais enregistrements du petit qui ont été faits par Hydrophone. Alors je sais, c'est assez déchirant comme histoire, mais je reviens à la course contre la montre. Tout est fait depuis pour tenter de le faire sortir de ce lagon situé tout au bout d'un fjord où les orques, au passage, n'auraient jamais dû se retrouver. On pense que la mère chassait un phoque retrouvé mort à côté d'elle. Concentrée sur l'action, elle a peut-être pas calculé le piège dans lequel elle les embarquait. Alors, plusieurs techniques pour attirer le petit vers la sortie du fjord et donc la haute mer. D'abord des enregistrements, c'est le chercheur en écologie des mammifères Paul Tixier qui nous explique, de l'unité Marbeck à l'IRD.
Ils savent à quelle population ces orques appartiennent. Et donc, ils jouent les sons vraiment spécifiques à cette population. C'est des cris stéréotypés que ces orques utilisent pour communiquer. Mais apparemment, là, le petit n'a pas du tout réagi à ça.
Autre technique employée.
C'est avec plusieurs bateaux d'essayer de pousser l'orque vers la sortie. Et puis, ce qu'ils ont essayé aussi, c'est ce qu'ils appellent les Oikomi pipes. C'est des espèces de tubes en métal que les gens vont taper l'un contre l'autre à la surface face de l'eau, dans l'eau. Et ça crée des sons qui, en général, sont assez gênants pour les cétacés et qu'ils peuvent utiliser aussi pour essayer d'éloigner et de guider l'orque vers la sortie. Mais a priori, ça n'a pas marché non plus.
Aïe, aïe, aïe. Le petit reste. Alors, est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas quitter sa mère? C'est surtout qu'il est paumé sans elle.
Ce qui est sûr, connaissant la biologie de ces animaux, c'est que le petit, il serait resté avec sa mère encore plusieurs années, même jusqu'à l'état adulte et même après l'état adulte. Donc c'est possible que le fait d'avoir vraiment perdu sa mère, qui est un événement traumatisant pour une orque, l'empêche de partir de la zone où il sait que sa mère était la dernière fois qu'il l'a vue.
Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'orque va plutôt bien.
Plusieurs éléments qui sont plutôt prometteurs, c'est-à-dire une bonne condition pour son âge, 2 ans. C'est une orque vraiment assez grosse qui a été bien nourrie par sa mère et qui, en plus, si elle arrive à se nourrir toute seule, c'est plutôt positif.
Et oui, parce qu'on l'a vu attraper un oiseau. Bon, dans les autres pistes plus radicales pour sortir le petit de là, c'est la capture pour relâcher ensuite. Mais quoi qu'il arrive, s'il se sort de là, pas sûr qu'il puisse survivre parce qu'il faudra un élément de taille, trouver un nouveau groupe, se faire adopter en fait par une famille, sa famille éloignée. C'est déjà arrivé il y a plusieurs années, sauf que l'orque en question était différente. C'était des orques dites résidentes, celles qui mangent des saumons avec une structure sociale assez stable. Les familles passent toute leur vie ensemble et là...
Ils font partie d'une autre forme, d'un autre type d'orques qu'on appelle les orques nomades, qui elles se nourrissent de mammifères marins et qui ont une organisation sociale assez différente. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de stabilité dans les groupes sociaux et donc c'est plus compliqué d'identifier en fait les familles les plus proches de ce jeune.
Un appel a été lancé à toute la communauté maritime et naturaliste du coin pour tenter d'identifier donc la potentielle famille adoptive. De gros moyens déployés qui pourraient en faire un petit peu halluciner certains. Mais les orques sont ultra importantes pour la communauté EATSAT. Elles se seraient réincarnées en loup puis en humain. Une cérémonie d'ailleurs a été organisée pour saluer la mémoire de la mère. C'est comme si j'avais perdu un proche, dit-elle. Suspense donc sur l'issue de cette histoire.
Merci beaucoup Camille Cronier. On peut réécouter tout ça sur franceinter.fr.
Jean-François Gouré, pas de traces d'orques jusqu'à nouvel ordre dans la Seine, on est d'accord?
Heureusement. Pas de traces jusqu'à nouvel ordre, mais on sait très bien que les baleines étaient chassées dans l'estuaire de la Normandie et que la baleine a offert toute une série de matériaux, la viande, la graisse, mais aussi les os, qui étaient utilisés pour fabriquer des objets. Et j'ai eu le bonheur un jour à Saint-Denis de trouver un fragment d'os de baleine comme une réserve de matière qui n'avait pas été utilisée. Et c'est l'un des plus beaux souvenirs de ma carrière d'archéologue.
À quel endroit on chassait, à quelle époque on chassait la baleine?
Durant tout le Moyen-Âge. Après, à la fin du Moyen-Âge, c'est plutôt au niveau du Pays Basque. Mm-hmm. Mais là, on était sur de la chasse en pleine mer, comme on se la représente. Là, on était vraiment sur de l'échouage de baleines dans l'estuaire, sur les bancs sableux de l'estuaire de la Seine. Et après, on dépiautait tout ça et ça partait.
Pas de baleines non plus, ou d'orques dans les fossiles que vous avez retrouvés, hein?
Non. Non, non, plus terrestre.
Sophie Clément. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On repart vers la Seine.
Pendant l'été, où je t'ai rencontré par magie, les nuits sacrées, où je t'ai raconté toute ma vie.
C'était Pomme à l'instant sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
C'est parti, Fred.
On y va, la Seine est à nous. Bon, en fait, Jamy, on en était où déjà dans notre histoire? Je suis un peu perdu, là.
Pour protéger les Parisiens, Philippe Auguste va demander aux bourgeois de la ville de financer la construction d'un mur d'enceinte. Eh ouais, au Moyen-Âge, Paris était déjà protégé par un mur d'enceinte de 5 km de long, flanqué de 77 tours. Ça rigolait pas, hein.
Voilà, un petit tour par C'est pas sorcier, Fred et Jamy, Paris au Moyen-Âge. Entre autres, à voir dans cette exposition dans la crypte archéologique de l'île de la Cité avec ses objets trouvés dans la Seine depuis donc la préhistoire. Jean-François Goret, il y a une très belle fresque d'ailleurs de Paris au Moyen-Âge qui nous donne à voir vraiment la ville telle qu'on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, parce qu'il faut voir qu'il y avait des ponts en bois qui étaient habités avec vraiment des maisons sur la Seine et qu'il y avait une activité terrible à l'époque, hein.
Oui, oui, les berges de la Seine et la Seine en elle-même et les îles qu'il y avait sur la Seine étaient des espaces habités, où il se passait énormément de choses avec une activité économique très forte et une population très, très présente. Alors, on vient d'évoquer l'enceinte de Philippe Auguste, ça s'explique aussi par le fait qu'une ville médiévale est une ville close, derrière un rempart avec un espace restreint. Et même si cette enceinte va évoluer, d'autres enceintes vont permettre que la ville s'agrandisse au fur et à mesure des siècles, on est toujours dans des espaces où il faut coloniser en fait la moindre place pour construire des maisons, pour installer des ateliers, pour créer une vie. Donc les berges de la Seine à ce moment-là font partie de ces espaces où de multiples activités vont se produire. Il n'y a pas de rupture entre les zones bâties, terrestres, et la rivière, l'espace en eau.
Mais c'était très ambitieux quand même à l'époque, parce qu'on le disait, la Seine était ultra vivante, hein, donc avec des crues, des inondations, et alors...
Mais justement, un message, Anne,
on installe les ponts en bois, les maisons...
Anne, elle dit, les gens ne s'installaient pas en zone inondable à l'époque, contrairement à nous, si en fait.
Oui, non, mais après, il faut se représenter la population médiévale et une population qui sait s'adapter à des situations. On construit une maison, le jour où la maison est emportée.
Oui, mais il faut
parce
bien...
que les pieux sont emportés. Porté par la rivière, et ben on l'a reconstruit derrière, et c'est un cycle. Alors il n'y a pas eu forcément des crues considérables tout le temps. Il y a quand même des épisodes assez longs où les gens étaient relativement tranquilles. Mais voilà, l'espace est plus occupé à un moment donné s'il y a une crue. On attend que la crue s'en aille et on recommence.
Bon, Sylvie Robin, fallait quand même dormir sur ses deux oreilles avec tout ça.
Alors,
sur la Seine.
Il y a des ponts dont on sait qu'ils étaient reconstruits à peu près tous les 50 ans, comme le pont Aumunier. On a des récits d'effondrement de ponts habités, comme un accident qui a eu lieu au pont Marie. Et en fait, ces ponts, ils sont habités jusqu'au XVIIIe siècle. Donc, une activité de reconstruction permanente en fonction des crues et surtout des débâcles. Il y a notamment une débâcle qui a été catastrophique pour Paris en 1880 où de très très nombreux ponts ont été détruits par des blocs de glace.
Oui, parce que ça c'est vraiment quand il faisait très très froid. Hein,
voilà, ouais. Très froid, oui.
Et donc, il y a eu ces espèces de morceaux de glace.
Oui, on a même dû les casser à la dynamite pour éviter que les ponts soient tous embarqués par ces blocs de glace. Et ce qui est intéressant, c'est que cette glace, elle est déjà mentionnée au IVe siècle par l'empereur Julien qui les compare plus poétiquement à des plaques de marbre. Mais enfin, ça a toujours existé sur
Et je crois que le dernier épisode de débâcle, c'est en 1950. Hein. Il y en a eu un encore assez. 1956, en tout cas, dans les archives. Hein, je crois qu'il y en a encore eu. Donc, on voyait vraiment.
Pas à ce point-là.
Des morceaux de glace passés sur la Seine. Camille.
Philippe voudrait savoir, c'est une question pour vous, Sophie Clément, question très très précise, est-ce que c'était des silex en bloc sortis du sol ou des silex de galets?
Pour la période préhistorique, alors.
Alors, c'est des silex qui proviennent de la berge, oui, et elles ne sont pas sorties du sol, en fait. Elles sont arrachées, ces blocs sont arrachés de leur banc par le fleuve. Et ils sont déposés sur les berges. Et donc, d'ailleurs, il y a deux types de silex différents sur ce site.
Autre question, Jérémy. On parlait tout à l'heure de la brigade fluviale. Ces trouvailles sont-elles toujours le fruit du hasard ou des fouilles sont-elles organisées encore régulièrement dans la Seine? J'imagine qu'on ne doit pas y trouver que des vestiges dignes d'une exposition. Sylvie Robin.
Alors, Sophie Clément.
Sylvie
Brevin, pardon. Désolée.
Oui, ce sont vraiment des... La brigade fluviale n'est pas là pour faire des fouilles ni pour faire des recherches archéologiques. Ce sont des découvertes fortuites qui sont parfois des blocs qui sont retirés ou des trois qui sont retirés pour la sécurité même du fleuve et de la navigation. Et donc, c'est pas du tout scientifique comme découverte, si on peut dire.
Mais est-ce que des fouilles, par ailleurs, Jean-François Goré, sont faites encore régulièrement? Parce que bon, il y a quand même un paquet de trucs dans la Seine.
Non, il y a même jamais eu vraiment, si vous vous intéressez au lit de la Seine qui concerne la ville de Paris, vous n'avez jamais eu de fouilles archéologiques. Ouais. Vous avez eu quelques opérations qui ont été faites sur les berges, des observations à l'occasion de travaux qui ont pu être faits sur des rénovations de ponts. Mais ce sont des observations ponctuelles, ce ne sont pas des véritables fouilles
et
telles qu'on peut le faire.
Parce que ce serait trop dangereux
Parce qu'il n'y avait pas lieu de les faire. Déjà parce qu'il n'y avait pas un aménagement qui justifiait le fait d'engager des fouilles. Deux, c'est extrêmement complexe, puisque la rivière est très sombre, on ne voit rien au fond. Il y a quand même un trafic fluvial qui fait que si vous plongez, vous pouvez être... il faut l'organiser avec ce trafic. Tout ça pour vous dire aussi que Pour ce qui relève du Moyen-Âge ou de l'époque antique et des objets qui sont présentés dans l'exposition, ce ne sont pour l'essentiel pas des objets qui viennent de fouilles archéologiques.
Ouais, ouais.
Ce sont des objets récupérés à l'occasion de dragages au 19e ou à une période plus récente.
Mais donc ça veut dire que si c'est des objets comme ça, comme vous disiez Sylvie Robin, découvertes fortuites, ça veut dire que, imaginons un jour on ferait des fouilles énormes, on trouverait un max de trucs, non ?
Depuis les dragages du 19e siècle, il y a sans doute l'essentiel des vestiges archéologiques qui pouvaient être conservés au fond de la rivière qui ont quand même été emportés. Mais après, je n'étais pas là à cette époque pour voir exactement la nature des travaux et il est possible qu'il y ait encore des signes, notamment de pêcheries ou de choses comme ça, des alignements de pieux qui pourraient nous indiquer qu'il y avait des aménagements au sein du cours d'eau.
Sophie Clément, quand vous organisez des fouilles à Clichy-la-Garenne, par exemple, ça reste quasiment exceptionnel dans la Seine.
C'est pour ça que ces fouilles, elles étaient attendues, pas que par les préhistoriens, parce qu'en fait, ça nous a permis d'intervenir dans un tissu urbain très dense, vraiment sur une ancienne terrasse. Mais quand moi je vous parle de la préhistoire, mais en fait on a traversé 8 mètres de stratigraphie, donc on a aussi des niveaux du 19e siècle, on a des niveaux proto-historiques d'ailleurs, c'est une période qui est très rare dans Paris et qu'on aime bien avoir des petites infos sur la proto-histoire aussi, et donc c'était vraiment l'occasion là pour le coup de couper en grand dans ces berges pour essayer de comprendre aussi comment ces berges sont aménagées au fil du temps. Quoi.
Et pourquoi on se concentre que sur la préhistoire ? Alors en l'occurrence, si dans les sédiments, on a toute cette échelle de temps qui est représentée ?
Alors sur le site de Clichy, on se concentre que sur la préhistoire parce que c'est là où on a des vestiges. Et donc c'est là où on a de la donnée. Mais on a quand même de la donnée aussi sur le dynamisme du fleuve et donc sur comment il va se comporter. Et notamment aussi sur les périodes plus récentes.
Sylvie Robin ?
Oui, c'est ce qu'on a voulu démontrer un peu dans cette exposition, c'est qu'il y a deux sources possibles sur la provenance de ces objets, c'est-à-dire qu'il y en a qui viennent vraiment de fouilles archéologiques récentes, menées scientifiquement et qui donnent des contextes, c'est-à-dire des datations, des informations sur l'altitude, où ils ont été trouvés et avec quoi on peut les comparer. Et les autres objets sont absolument nus et absolument dénués de toute information. Et là, ils apportent autre chose. Il y a des données statistiques.
Alors, c'est facile quand on vous ramène un Vélib, par exemple. Voilà. Mais quand on ramène une poterie beaucoup plus ancienne, là, ça se complique parce qu'on n'a pas le comparatif, finalement.
Il y a beaucoup d'objets qui sont très difficilement datables. Je pense en particulier à des clés, à des dés à coudre, hein, des objets qui ont peu changé dans leur évolution morphologique, et du coup on a un peu de mal à les dater entre le Moyen-Âge et l'époque moderne.
Le nombre d'armes d'ailleurs qu'on voit dans l'exposition, c'est incroyable ça. De toutes les époques d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des pistolets très récents qu'on retrouve dans la Seine, et puis vraiment d'autres armes beaucoup plus anciennes.
Alors cette question des armes, on a beaucoup travaillé dessus, des archéologues se sont vraiment penchés sur la question, parce qu'il y a toutes sortes d'interprétations possibles en fonction de la date de ces armes. On sait par exemple que à l'âge du bronze, il y a beaucoup de dépôts qui sont votifs, ce sont des dépôts qui sont faits, des dépôts d'armes des vaincus ou des dépôts votifs avant un combat, et puis pendant le Haut Moyen-Âge, il y a aussi une importance très grande des armes qui sont jetées dans l'eau, aussi pour les cacher.
Mais quel type d'armes alors, par exemple ?
Alors, il y a des épées, il y a des lances, il y a des haches, des haches d'armes. Et donc, il y a plusieurs interprétations. Celle qui prévaut quand même pour le Haut Moyen-Âge, c'est celle que la tradition qui fait que l'arme, l'épée d'un guerrier est quelque chose qui est vraiment assimilé à sa personnalité. Elle ne peut pas être récupérée par la suite. Et c'est notamment ce qui se passe après la mort de Roland à Roncevaux. En fait, Charlemagne va prendre son épée et l'immerger, en fait, suivant les traditions, soit dans un lac, soit dans un fleuve. Mais elle ne peut pas être récupérée par un autre guerrier.
Et donc, ça fait la joie ensuite des archéologues qui tombent dessus.
Annie voudrait savoir, vous parliez tout à l'heure, Jean-François Goré, de trafic fluvial. À quelle époque est-ce qu'on a commencé à naviguer sur le fleuve ?
On peut considérer que dès la conquête de la Gaule et dès le néolithique. Alors, au néolithique, on a circulé, on a des témoignages, on a trouvé des très belles pirogues. Il y a quelques dizaines d'années à Paris qui témoignent qu'on est sur un espace de circulation. De toute façon, les fleuves sont par définition les couloirs de circulation les plus aisés, bien plus que les couloirs terrestres, les chemins, pour diverses raisons.
Après, ça s'intensifie comme un axe de circulation de marchandises, essentiellement, en effet, à l'époque antique.
Sylvie Robin, ce qui est très émouvant aussi, c'est que finalement, dans cette crypte archéologique de l'île de la Cité, on a les traces encore sous les yeux du premier port, finalement, de Lutèce. Hein. C'est ça, on a les ruines de l'époque hein.
Voilà, on a un mur qui est interprété comme le premier mur de quai du premier port de Lutèce, construit au début de notre ère. Et ce mur est important parce qu'il montre comment la colonisation de la Gaule va aller de pair avec l'exploitation de ces zones portuaires pour favoriser le commerce. Les Romains sont des grands commerçants, des grands ingénieurs, et ils vont sélectionner des sites qui sont de potentiels ports. Lutèce en fait partie, bien qu'étant une zone très marécageuse en bordure de l'île de la Cité, mais elle va quand même être exploitée pour faire.
Et ce mur, il est là.
Et ce mur est là.
Il existe toujours. Voilà. Et voilà. Il est parfois même inondé quand il y a des crues.
Oui.
Hein,
alors en 2016,
la crypte aussi.
Le mur de quai a vraiment a été un rempart contre l'eau qui montait de la Seine.
Allez, on se retrouve dans un instant pour les dernières questions autour de cette exposition, juste après avoir emprunté la Nationale 7 avec Charles Trenet sur France Inter.
De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. Route des vacances, qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là, qui fait risette, on est heureux, National 7. Route des vacances, qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, en chantant fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là, qui fait risette, on est heureux, National 7, on est heureux, National 7, on est heureux, National 7.
Et si vous empruntez la route de la capitale, passez par la crypte archéologique de l'île de la Cité pour voir cette exposition de ces objets trouvés de la préhistoire à nos jours dans la Seine. On en parle avec nos invités. Sylvie Robin, les plombs de la Seine, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, les plombs de la Seine, c'est une collection qui a été recueilli par un antiquaire qui s'appelle Arthur Forger et qui a passé sa vie à acheter, collectionner, étudier des tout petits objets qu'on appelle les plombs de la Seine.
Mais Jean-François Goret, alors ça sert à quoi et à quelle époque ces plombs ?
Alors, ces plombs rassemblent en fait une très large famille de petits objets aux fonctions diverses et d'ailleurs il est souvent difficile d'associer un objet à une fonction précise. Ça, c'est... Ce qui domine parmi ces plombs historiés sont les enseignes de pèlerinage, qui étaient des petites anciennes, moulées en plomb, dans des moules à deux valves, qui étaient portées sur un vêtement ou sur un chapeau, et qui étaient un signe de reconnaissance, comme quand on avait participé à un pèlerinage vers un lieu saint. Et on pense qu'en fait, en fin de parcours, un peu de cette démarche spirituelle, l'enseigne pouvait être jetée dans un cours d'eau pour passer à autre chose, passer à un autre pèlerinage. Et donc, on en trouve des quantités astronomiques. Et bien sûr, les thèmes récurrents sur ces petites enseignes de pèlerinage, c'est des représentations de saints. Alors moi, je pense toujours à Saint-Denis qui porte sa petite tête sous
mais
son
ça,
bras.
Ça dit quelque chose des relations, au fond, des humains aussi avec le fleuve, ça, ou pas?
Alors, ça dit beaucoup de choses. Déjà, ça parle de ce qu'est une ville à la fin du Moyen-Âge, parce que ces pèlerinages, c'est essentiellement entre le 12e et le tout début du 16e siècle. C'est un moment où il y a une population très, très importante au sein des villes. Des pèlerinages, vous en avez des dizaines et des dizaines par année. Aujourd'hui, il y a quelques pèlerinages qui sont encore célèbres et pratiqués, mais la pratique du pèlerinage était quelque chose de vraiment très, très importante. Et donc, on passait des journées où se croisaient dans la rue des processions de pèlerins avec une charrette transportant, je ne sais pas moi, n'importe quoi pour alimenter une taverne ou je ne sais quoi. Donc, en gros, ça parle un peu de ce bouillonnement spirituel, économique de la ville médiévale. Et le nombre d'objets, bien sûr, est révélateur de ce niveau de vie. Et de cette intensité de la vie médiévale.
Sylvie Robin, aujourd'hui encore, on se mobilise autour de la Seine avec des gardiens et des gardiennes. On en a parlé ici avec Marine Calmet. Mais c'est un mouvement intéressant puisque, à l'instar de la Loire, par exemple, et d'autres fleuves, pour la Seine, il y a aussi, celles et ceux qui souhaitent donner une entité juridique au fleuve.
Oui, alors cette relation, ce rapprochement avec cette association, il est venu aussi de l'intervention d'un artiste qui s'appelle Yann Tomaszewski, qui a reproduit un ex-voto de la Seine. Et ça montre aussi comment ce rapport un peu religieux et mystique à un élément naturel revient aussi aujourd'hui parmi des préoccupations écologiques, environnementales. Et cette nécessité de prendre soin de la Seine est remis à l'ordre du jour avec cet artiste et plusieurs associations. Il y a les gardiens et les gardiennes de la Seine. Il y a aussi une association qui s'appelle Odyssée, avec laquelle nous travaillons, qui organise aussi bien des régates que des processions chorégraphiées sur ces berges.
Mais tout ça, c'est dans l'idée de protéger le fleuve aussi. Hein.
Voilà, c'est de le valoriser, de le protéger et d'avoir ce regard moins... c'est exploiter en douceur et respecter un peu plus la Seine comme une entité géographique.
Sophie Clément, est-ce qu'il y a d'autres fouilles qui continuent à Clichy-la-Garenne ou pas? Comment ça se passe?
Non, j'aimerais bien.
Petit appel subliminal.
Non, en fait, nous, les fouilles que l'INRAP fait, c'est des fouilles qui sont inféodées aux travaux. Donc, c'est pas les archéologues qui décident des lieux.
En tout cas, vous avez fait de belles découvertes quand même. Et cette exposition en témoigne. C'est donc en ce moment dans la crypte archéologique de l'île de la Cité. Si vous ne la connaissez pas, c'est sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous en parler et bon lundi de Pâques.
Merci à vous.
Merci.